Let's go. Bonsoir tout le monde, à la recherche du groupe perdu, émission 72, et bienvenue pour cette émission consacrée à l'influence de l'Afrique et de sa musique sur la diaspora afro-américaine, à travers l'afro-jazz dont on va explorer aujourd'hui le répertoire. Pour introduire l'émission, je vais citer un grand du jazz, Dizzy Gillespie. Il résume son lien avec l'Afrique à travers ces quelques phrases qui résument en quelque sorte le contenu de l'émission du soir. La source de notre musique est l'Afrique. Mama Rhythm is Africa. En Afrique, vous allez à tel endroit, vous entendez un rythme et 2 miles plus loin, les gars jouent complètement autre chose. Ils jouent ce qu'ils vivent. Les enfants de l'Afrique en Occident ont plusieurs façons d'exprimer leur attachement à Mama. Les Brésiliens africains ont créé la samba, les Caraïbes le calypso, Cuba la rumba et un tas d'autres rythmes. Mon truc à moi, c'est le blues, les spirituals. Tous sont des caractéristiques différentes, néanmoins ils constituent un ensemble. C'est donc une chose naturelle pour moi d'être sous l'influence de ces différents rythmes. C'est incroyable que les Blancs aient décidé de nous maintenir ainsi à l'écart des Africains et de notre patrimoine ancestral. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous n'entendez pas dans notre musique notre héritage africain, autant que dans celle d'autres parties du monde. Ils nous ont confisqué nos tam-tams. Si vous allez au Brésil, à Bahia par exemple, où il y a une population noire importante, vous remarquerez une forte influence africaine dans la musique locale. À Cuba, c'est pareil, vous trouverez les traces de l'héritage, ainsi que dans les Antilles. Un jour au Kenya, j'ai entendu jouer les musiciens du coin et je leur ai dit aussitôt: vous jouez le calypso comme aux Antilles, les gars? Et un des types m'a répondu en riant: n'oublie pas qu'on était là avant. Autre citation d'un autre grand jazzman qu'on va écouter ce soir et dont l'œuvre musicale a été dédiée en très grande partie au rapprochement entre le jazz et ses racines africaines. Il s'agit de Randy Weston, qui a dit en substance: il y a un lien entre la musique africaine et la musique de toutes les civilisations à travers le monde, parce que l'Afrique a eu la première civilisation, et la musique africaine est aussi vieille que l'Afrique. Où que vous alliez, la culture africaine, la musique africaine y ont été. C'est quelque chose qui s'est perdu. Il faut que les gens reconnaissent la musique africaine, son importance. Mais ce lien était là et fut transformé selon les circonstances de différents lieux, temps, personnes. Donc oui, ce lien est important. Il nous faut revenir à l'histoire ancienne parce que c'est de là que l'on vient. Vous voyez, les gens qui nous ont amenés en Amérique n'étaient pas très à l'aise avec notre musique, surtout les tambours. Ils savaient qu'avec les tambours, on pouvait se parler. Pour éviter cette communication, ils avaient strictement interdit les tambours. C'est pourquoi nous avons mis les rythmes que nous ne pouvons pas jouer au tambour dans le piano, la trompette, le saxophone, les instruments européens avec lesquels nous avons dû faire. La spiritualité africaine ne pouvait être exprimée à travers les vieilles religions, ce n'était pas autorisé. Elle a trouvé un exutoire dans l'église noire d'Amérique et c'est arrivé de différentes façons partout où étaient les Africains. Vous trouverez ce même genre de spiritualité là où nous sommes. Quand j'étais gosse, mon père me disait que je devais comprendre l'Afrique pour me comprendre moi-même, sinon j'aurais une tête européenne, pas africaine. L'Afrique est le foyer de l'humanité, de nous tous. J'essaie d'utiliser la musique africaine pour nous rassembler, pas nous éloigner. Point, fermez les guillemets. Et dès les années 50, beaucoup de ces jazzmen, comme Dizzy Gillespie, surtout Randy Weston, s'emparent d'une nouvelle aspiration de la communauté afro-américaine, c'est-à-dire le retour aux sources, back to the roots. Le mouvement Hard Bop, en réaction au style West Coast, popularisée par les jazzmen blancs, remet l'Afrique au centre du discours jazzistique. Parallèlement, les mouvements sociaux autour de la condition des Afro-Américains aux États-Unis développent une prise de conscience dans la population noire de la richesse d'une culture ancestrale commune. C'est la sortie chez Columbia en 1959 d'un album complètement nouveau pour les oreilles des États-Unis qui va déclencher un engouement pour les cultures africaines. Dreams of Passion du percussionniste nigérian Babatunde Olatunji. Et ce disque, il va ouvrir les yeux à certains jazzmen. Le succès commercial du disque est considérable et pour la plupart des jazzmen américains, c'est la première fois qu'ils entendent une telle musique. On va donc s'écouter un titre de cet album de Babatunde Olatunji qui s'appelle Kia Kia. On se retrouve dans à peu près 5 minutes. Allez, à toutes. We'll be right back. le batteur Max Roach, diplômé de percussion et fer de lance de l'esthétique art bop, sera le premier jazzman à jouer avec un musicien africain. Sur l'album William Steed Freedom No Suit, sorti en 1960, il invitera le même Baba Tunde Olatunji qu'on vient d'entendre. Cet album historique réunit trois des préoccupations majeures du batteur, à savoir son engagement pour la cause noire aux États-Unis, une musique qui flirte avec l'émergence du free jazz, ainsi qu'une africanité revendiquée, les déferlantes de percussion, le chant incantatoire d'Abel Lincoln sur les titres comme All Africa ou Tears for Johnson. C'est ce dernier qui débute derrière, témoigne de cette admiration pour l'Afrique. Max Roach.
Oh,
Art Blakey, batteur lui aussi, est très sensible aux origines de son instrument. Étudiera les percussions africaines lors d'un voyage en Afrique en 1948. Son album The African Beat, sorti en 1962, témoigne directement de cet enseignement. Il reprend des compositions du Nigeria et du Ghana accompagné par le groupe The Afrodrum Ensemble avec le percussionniste nigérian Salomon Ilori. Ce dernier continuera dans la lancée d'African Beat en sortant l'année suivante et avec le même personnel, l'African High Life. On s'écoute donc un morceau de Art Blakey et ensuite deux de Salomon Ilori. À tout.
fille fait chier. Olé Darouo, pour ma fille fait chier.
Oh,
Voilà pour ces morceaux de Salomon Ilori. On continue. Aux États-Unis, un homme incarne plus que tout la rencontre du jazz et de l'Afrique. Je l'ai déjà évoqué en intro de l'émission, il s'agit de Randy Weston, pianiste et compositeur né à Brooklyn en 1926. Il n'aura de cesse pendant toute sa carrière d'expérimenter ce métissage. En 1960, alors qu'il est déjà un pianiste reconnu sur la scène new-yorkaise, il enregistre l'album manifeste Uhuru Africa Freedom Africa, longue suite africaine sur des textes de l'écrivain afro-américain Langston Hughes. À partir de ce moment-là, l'Afrique devient omniprésente dans son travail et ses compositions. Il étudiera la tradition musicale africaine avec le tromboniste Melba Liston. Il fait également plusieurs voyages au Nigeria en 61-63, après lesquels il sortira l'album High Life, puis il effectue une grande tournée africaine en 1967. Après la rencontre avec le musicien marocain Abdellah Boulkaïr El Gour, il s'installe à Tanger au Maroc, où il ouvre un centre culturel, The African Rhythm Club, développant ainsi la découverte de la culture gnawi. Les trois décennies suivantes, Randy Weston sort une multitude d'albums dédiés à l'Afrique, tous au nom explicite. African Cookbook en 1969, African Nights en 1975, African Rhythm en 1983, The Spirits of Ancestor en 91 ou Kepara en 1998. J'ai choisi trois titres pour présenter une infime partie de son œuvre monumentale. Le premier morceau est tiré de l'album High Life de 64, Blues to Africa. Le second extrait de African Cookbook, Niger Mambo. Et enfin un titre plus récent de 95. L'album s'appelle Saga et le morceau The Gathering, Randy Weston.
Thank you. We'll be right back.
c'était Randy Weston et le dernier morceau The Gathering. On continue avec un morceau de Karim Abdul Halim, Brotherhood, paru en 1983. Et derrière, il y aura l'Art Ensemble of Chicago qui reprend le standard de Fela Zombie dans une version très free jazz, bien barrée et foutoir. Un style qui pratique à merveille, qui fait honneur à mon sens à Fela, car on sort vraiment ici du carcan afrobeat et c'est difficile à faire sans être foiré. Karim Abdul Halim, et ensuite ce sera Art Ensemble of Chicago. We'll be right back. Voilà pour cette session Afro Jazz en direct des studios de Herbivois. Si vous avez apprécié l'émission, vous pourrez la réécouter jeudi à 10h sur la bande FM ou la podcaster sur le site de la radio, rubrique émission musicale. C'était à la recherche du groupe perdu numéro 72. La semaine prochaine, on s'intéressera dans la continuité d'émission de ce soir à l'influence de l'Afrique sur les musiques caribéennes, jamaïques, anti-françaises, Trinidad et Tobago et Cuba. Bonne soirée, bonne semaine. Ciao.